Ahimsa, non-violence.
Humilité, tolérance,
respect,
compassion.
Ahimsa, non-violence, le magazine qui rend la vie positive.
Bonjour à tous et bienvenue dans Ahimsa, non-violence, le magazine qui rend la vie positive, on l'a dit dans le générique. C'est Radio 666 que vous écoutez à l'instant, 99.1 dans la région de Caen. Mais le magazine Ahimsa, c'est aussi un magazine national. Vous pouvez l'écouter, même international, puisque vous pouvez l'écouter depuis Tombouctou. Oui, hein, depuis Tombouctou, j'ai bien dit, en streaming sur la plateforme Odyssée. C'est une chaîne de vidéos Odyssée, concurrent à YouTube, qui est beaucoup mieux, du coup, il n'y a pas de pub dessus. Et vous pouvez réécouter tous les podcasts, en fait, sur la chaîne Odyssée Ahimsa Podcast. Vous pouvez aussi réécouter toutes ces émissions que vous allez écouter un instant sur les ondes de Radio 666 pendant une heure sur la plateforme Mixcloud. Voilà, et on a aussi, donc ça c'est les versions magazine radio complet, et après on a aussi d'autres versions courtes, donc podcast, voilà, parce qu'il n'y a pas de musique. Et en fait c'est podcast où il n'y a que le blabla. Bah, vous l'avez sur Amazon Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Vous cherchez tout simplement Ahimsa Non-Violence Podcast et vous pouvez avoir accès à tout le contenu des anciennes émissions. Voilà, les émissions d'aujourd'hui, on a en interview Jean-Marie Châtelier, qui est un réalisateur de films, de documentaires. Il a fait notamment le film Le Havre, Cité Rock, et aussi un autre documentaire, William et les fantômes, qui parle de l'histoire de William Deligny, le fondateur de l'asso Ahimsa Non-Violence. Hein, qui fait, voilà, donc le magazine Ahimsa, c'est, vous l'avez compris, le magazine de l'association. Voilà, donc une association fondée par William Deligny, ancien skinhead, qui raconte un petit peu dans ce documentaire son parcours, comment il est sorti de la violence, est-ce qu'il a aidé à sortir de la violence, c'est-à-dire faire des choses, des actions positives dans sa vie, puis tout un chemin intérieur en fait d'éveil spirituel, voilà. Et vous pouvez du coup Ahimsa, cet asso qu'il a fondé ensuite, fait la promotion de valeurs positives pour aider les gens dans leur vie à trouver le bonheur tout simplement. Hein. C'est pas de prosélytisme, il n'y a pas de choses religieuses dans ça, c'est juste basé sur la méditation et sur l'âme qui sont des choses universelles. Voilà, donc le magazine Ahimsa, ça parle de ça un petit peu. Voilà, on a cette conscience, on va dire, qu'on présente à travers des choses positives et saines. Donc voilà, par exemple dans les différents podcasts vous pouvez écouter des émissions où ça va parler d'Ayurveda par exemple, de médecine naturelle, de plantes médicinales, mais aussi on parle de moto, on écoute de la musique, du rock, du punk, du ska, de la folk, voilà, c'est très très varié, très éclectique. Et dans cette émission aujourd'hui, on va surtout écouter du rock et du punk, voilà, parce que c'est un petit peu dans le thème aussi de notre interview avec Jean-Marie. Donc on va discuter avec lui, on va revenir sur les différents films qu'il a fait. Comme il a fait ce film Le Havre, Cité Rock, et on va en profiter pour écouter quelques groupes du Havre. Donc on aura en playlist The Dogs, que j'ai pris un grand plaisir à redécouvrir en fait. C'est vrai que c'est un groupe que j'avais oublié, Jean-Marie me l'a rappelé dans cette interview et... Bon, là, j'ai pas arrêté d'écouter les Dogs, c'est vraiment un groupe excellent. On va écouter aussi d'autres trucs, voilà. Et on va aussi écouter les Caméras Silence, parce qu'il avait un projet, Jean-Marie, avec le chanteur de Caméras Silence, Gilles Bertin. Vous verrez, il nous raconte son histoire, c'est super. Dans le podcast, on va voir ça en milieu d'émission. Voilà, mais tout de suite, on va commencer cette émission avec un morceau de musique. Pour rester un petit peu dans le thème, j'ai choisi un groupe de punk français qui a commencé très tôt, en 78. Donc c'est un des premiers groupes de punk français, ça s'appelle Bulldozer, c'est un groupe de Paris. Ils ont sorti un album, c'était en 78 ou 79, qui s'appelle Je suis punk. Et on va écouter ce titre-là justement, Je suis punk, parce que je trouve ça très drôle, la voix, là, il a vraiment une grosse voix assez marrante. Et puis les paroles sont vraiment très rigolotes aussi. Dans tout cet album de Bulldozer, Je suis punk, moi je vous invite vraiment à aller l'écouter. Voilà, c'est pas du punk énervé, c'est encore, les textes sont très bien parlés, articulés, on arrive à bien comprendre. Et voilà, c'est très rigolo à écouter. Et un très bon album à se mettre dans les oreilles. Hein, voilà. Et avant de commencer, un petit truc que j'allais oublier aussi. Pourquoi on fait cette émission? C'est pour la promotion du film William et les fantômes, parce qu'on va le diffuser à Rouen. Et même, on va le diffuser jusqu'à Clermont-Ferrand et au Puy-en-Velay. Voilà, il y a trois dates de diffusion du film. La première qui vient, c'est le dimanche 7 avril à Rouen, exactement à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais vous avez le métro de Rouen qui dessert Saint-Étienne-du-Rouvray, en descendant à l'arrêt de tram, à l'arrêt de métro Champ de Course. Donc le film William et les fantômes va être diffusé là-bas, c'est à prix libre, donc vous donnez ce que vous voulez, voilà. Et le dimanche 7 avril à 15h30. Allez, tout de suite, on écoute Bulldozer, je suis punk. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine AIMSA Non-Violence. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité, Jean-Marie Châtelier, réalisateur d'un documentaire. Salut Jean-Marie.
Bonjour.
Bon, alors toi, tu as fait le documentaire William et les fantômes, voilà, William Deligny, de l'assaut AIMSA Non-Violence. On en a déjà parlé dans plusieurs émissions. Et on va diffuser ce documentaire d'ailleurs à Rouen, en fait, le dimanche 7 avril, en début du mois prochain, à 15h30. Et bah, cette occasion-là, voilà, j'ai dit, bah tiens, on va voir si Jean-Marie veut bien répondre à quelques questions.
Ouais, bien sûr, c'est gentil.
Et bah, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, pour tous nos auditeurs?
Alors moi, je vis au Havre depuis bientôt 54 ans. Et j'ai fait mes études à Rouen, des études d'archi. Moi, j'ai eu mon diplôme en 94-95. Et je suis retourné vivre au Havre à la fin de mes études. Et j'ai tout de suite réalisé des documentaires.
D'accord. À quel âge tu as réalisé ton premier documentaire, du coup?
Alors, le tout premier, écoute, c'était à la suite d'une rupture amoureuse avec ma copine. J'étais encore étudiant à Rouen.
D'accord.
Et je crois que c'était en 93.
D'accord.
C'est un film assez bancal, très... très maladroit, mais on avait la chance à l'école d'archi à Rouen d'avoir un petit studio vidéo dans lequel on pouvait un peu expérimenter, et c'est là où j'ai fait mes premières armes.
D'accord. Est-ce que tu as travaillé un petit peu comme architecte suite à ça, ou alors en fait c'était...
Alors j'ai travaillé 2 mois dans l'agence d'un copain avec qui j'avais passé mon diplôme en même temps, et puis très vite je le savais déjà, hein. Que c'était pas un métier dans lequel j'arriverais moi à m'épanouir. Les contraintes économiques, techniques du métier faisaient que j'aurais vraiment pas été très très doué pour ça. Ouais.
Donc après t'as plus vécu ta passion qui était un petit peu le cinéma, la réalisation de documentaires, non, c'est ça?
Ouais, exactement, sauf que ça a été très dur d'en vivre, hein. Tu vois, là j'ai 54 ans, 2 enfants, et c'est encore vraiment vraiment dur. Je maintiens mon statut d'intermittent, qui est quand même un statut assez précaire quand on fait du film documentaire. Mais c'est de plus en plus dur. C'est vraiment de plus en plus dur. Bah ouais.
Et dans ta jeunesse, du coup, tu étais un petit peu dans la scène rock, punk rock de Rouen et du Havre, non, c'est ça?
Alors moi, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis vraiment issu d'un milieu vraiment très, très protégé, très privilégié. Et justement, comme dans beaucoup de familles nombreuses de cette classe-là, t'as forcément un moment envie d'aller voir ailleurs. Et moi, très tôt, moi, j'avais un grand frère qui, lui, vivait à Paris, qui écoutait du punk, du rock. Et c'est par son intermédiaire, c'est lui qui m'a transmis justement toute cette esthétique rock-là.
D'accord.
Et moi, j'avais la chance quand même de vivre au Havre, où il y a eu quand même un précurseur avec Little Bob, qui a ouvert la voie à plein d'autres groupes après. Et ensuite, quand j'ai vécu à Rouen, il y avait quand même un des très, très grands groupes de rock français, qui étaient les Dogs. Je crois que c'est Christian Houlmar qui m'avait dit, lors d'une interview que j'avais fait sur un précédent film qui s'appelait Le Havre Cité Rock, qui m'avait dit: on a de la chance en Normandie, on a les deux plus grands groupes de rock français, on a Little Bob au Havre et les Dogs à Rouen.
C'est bien de faire connaître ces groupes. D'ailleurs, je pense, tu vois, on va s'écouter 2 titres de ces groupes-là après. On va faire une petite pause musicale après, on va se passer 2 titres de ces groupes-là, comme on en parle.
Bien.
Et oui, alors voilà, ça, ce sont les deux. Un documentaire que tu as réalisé, c'était sur le rock du Havre, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est le premier documentaire que j'ai fait avec, coproduit avec France Télé. Et c'était en 2016, revenir sur cette aventure rock et comment ces, ces groupes avaient façonné et refaçonné l'identité de la ville, une identité totalement détruite après les bombardements de 1944. Puisque ouais. La volonté politique de l'après-guerre, c'était de faire de cette ville du Havre une grande capitale économique et portuaire. Et en fait, on s'est rendu compte que cette identité de la ville a été redonnée par les musiciens locaux, les musiciens rock principalement. Ah ouais. Il y a plusieurs choses qui s'expliquent à ça. C'est la proximité avec l'Angleterre et puis aussi le fait que les premiers groupes punk, quand ils arrivaient pour leur tournée en France, fauchés, bah, ils débarquaient par le ferry au Havre.
Ah ouais. Et les, donc t'avais plein de grosses têtes d'affiches qui passaient par le Havre à chaque fois, en fait.
Ouais, les Stranglers, ils ont donné leur premier concert en France, c'était au Havre, alors que leur premier album n'était pas encore sorti.
Mmh. Ah, c'est excellent, ouais. Donc tout ça, c'est, ça, tu racontes un petit peu toute cette histoire dans le documentaire, non ?
Ouais. Mmh. Oui, c'était cette intention-là. Oui.
D'accord. Est-ce qu'on peut toujours le voir, ce documentaire, ou est-ce que... Moi, je ne l'ai pas vu. Alors, et c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup de le voir, en fait. Tu vois.
C'est la difficulté des films qui sont coproduits avec, avec une chaîne nationale, c'est qu'ils s'en gardent le... Ils ont les droits, après. Mmh. Et du coup, tu ne peux pas les mettre sur les réseaux en accès libre. Mmh. Parce que dans le contrat que tu as signé avec eux, nous, on est un peu pieds et poings liés. On ne peut pas le partager librement. Et c'est assez frustrant parce qu'en fait, c'est un documentaire, un 52 minutes comme ça, c'est un an de boulot. Et après, c'est one shot. Quoi. Ça passe une fois, deux fois.
Bah ouais, c'est ça.
Et hein. Après, tu ne les vois plus. Quoi.
Bah ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. Hein. Et puis, il n'y a même pas de sortie DVD en fait, non, sur ces films-là. Comment ils font, en fait ?
Si, il y avait eu une sortie DVD à l'époque, en 2016. Avec une version, la version télé de 52 et une version longue de 90 minutes.
D'accord. Donc on peut toujours peut-être par chance trouver ce DVD d'occasion quelque part, non ?
Oui, alors après il avait été mis dans les médiathèques du Havre. Je ne sais pas si à Caen il est disponible et à Rouen également. Mm-hmm.
Bah, se renseigner. Hein. Alors c'est quoi ? Tu peux nous rappeler le titre du documentaire ?
Alors le film s'appelle Le Havre, Cité Rock. Et Never Cry About the Past, qui est un titre de Little Bob.
Ok. Et donc Little Bob, ils avaient commencé en quelle année ? Est-ce que tu te souviens un petit peu l'historique ? C'était fin 70 ?
C'était, oui, c'est ça. C'est début des années 70. Ouais, et hein. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait eu un portrait de Little Bob qui avait été fait il y a quelques années, dans lequel il avait interviewé différents artistes, et notamment tu avais Glenn Matlock des Sex Pistols, qui dit dans le film, en 77, il n'y avait que de la merde, il n'y avait que Little Bob. Et là, hein, tu tombes un peu de ta chaise, parce que tu comprends qu'en fait, nul n'est prophète en son pays, et que Little Bob, il était un peu... Il était assez dédaigné par les médias dominants nationaux et en France en tout cas, et il était adulé en Angleterre.
Ah ouais, d'accord. C'est vrai qu'en France, nous, quand on dit pense au rock, les gens, c'est genre tout de suite Johnny Hallyday, quoi, tu vois, mais il est connu qu'en France.
Ouais, hein. Ouais.
Alors que bah voilà, Little Bob, lui, pas si connu que ça en France, mais connu dans le monde entier, quoi. Comme quoi. Bon bah écoute, je pense que c'est pas mal, là, comment on en parle un petit peu. Bon, on va écouter un titre de Little Bob tout de suite.
Pas bonne idée.
Voilà. Tu en aurais un qui te plaît, que tu voudrais passer ?
Eh bien, Never Cry About The Past, si tu le,
okay.
Si tu l'as.
Bah ouais. Allez, tout de suite, Little Bob, Never Cry About The Past. Et voilà, d'un instant, c'était deux titres de musique, Little Bob, et ensuite, on a passé un titre des Dogs. Donc les Dogs, c'était un groupe de Rouen, hein, c'est ça, Jean-Marie ?
Ouais, les Dogs, c'est un groupe de Rouen.
Et ils figurent aussi dans le documentaire. Non, ils ne sont pas dans le documentaire à propos du Havre.
Alors, ils sont dans le documentaire parce qu'effectivement, il y a toujours cette rivalité entre, un peu idiote entre le Havre et Rouen.
D'accord.
Mais justement, Little Bob a souvent invité les Dogs à jouer au Havre. Et il y avait vraiment un respect mutuel de ces deux formations, la vraie et rouennaise.
Ouais.
C'est vrai que les dogs, moi je connais un petit peu plus, ça, j'en ai entendu plus parler voilà, moi, dans la scène punk dans laquelle je suis. Après, je suis d'une autre génération que toi, hein, donc voilà, c'est ouais. pareil. Mais ouais, les dogs, ça a toujours été un groupe voilà, pas si connu que ça finalement, hein, c'est vrai quand même. Mais pour les gens qui aiment bien gratter un petit peu et trouver des groupes, voilà, il y a les dogs qui apparaissent quand même assez vite. Ouais.
Ouais, c'était lié effectivement au talent incroyable de Dominique Laboubet, le leader des Dogs, à son élégance, son lyrisme, son charisme. Et c'est vrai qu'il est mort prématurément en octobre 2002, alors qu'il était en tournée aux États-Unis, d'un concert foudroyant. Et encore une fois, ça fait partie de ces groupes qui n'ont pas eu la notoriété qu'ils auraient mérité d'avoir.
Et ouais, en France, malheureusement, il y a des choses comme ça où on passe un petit peu à côté. Et ouais, comme on disait tout à l'heure aussi, bah, en ce moment, il y a pas mal de gens qui décèdent, hein, que ça soit, tu vois, toutes les scènes musicales dans le monde entier. L'année dernière, je sais pas, il y a eu pas mal de gens, tu sais, les gars des Specials, plus. Puis en France, on a eu aussi, voilà, Raji Lazaro, Ty Luke. À chaque fois, on a fait des émissions d'hommage pour eux, quoi. Voilà, quoi. Alors toi, je sais que tu avais aussi un projet de documentaire qui a été d'interviewer Gilles Bertin, qui était le chanteur de Caméra Silence.
Oui, mais initialement, le documentaire que j'ai fait autour du portrait de William Dolinier, ça devait être un double portrait, à la fois celui de William et celui de Gilles Bertin. Parce que l'idée de départ, mon intention originelle, c'était de raconter la France des années 80 à travers deux mouvements esthétiques opposés, le mouvement punk et le mouvement skin. Je m'étais dit que c'était assez formidable de voir le parcours à la fois complètement chaotique et de ces deux grandes figures. Et puis de voir aussi la capacité de résilience aussi de l'homme à travers leur parcours accidenté.
Ouais. C'est vrai que c'est deux histoires incroyables. Hein. Que ce soit celle de William, bon, on va en parler peut-être un petit peu plus à la fin pour faire la promo, mais celle de Gilles Bertin aussi, voilà, il avait fait... donc il jouait dans le groupe Caméra Silence, il y a eu deux albums de sortie. Premier album éponyme,
je crois qu'il était sorti. Ouais.
Réalité, ouais, c'est vrai. Et après, réalité, ouais. Rien qu'entraînant. Mais ouais. Réalité, c'était sorti en 81, 82, je crois, et rien qu'entraînant 85 ou 86, hein, je me souviens plus bien. Mais...
Alors, je crois que c'est 83 pour Réalité. En fait, ils l'ont sorti, c'est un peu à hasard, puisqu'ils participaient à un tremplin rock à Bordeaux. Et ce sont, à l'époque, un groupe qui s'appelait Les Noirs Désirs, puisque à l'époque ça s'appelait Les Noirs Désirs, avec déjà Bertrand Cantat comme leader. Et c'est eux qui ont gagné le tremplin. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, Bertrand Cantat s'est engueulé avec le groupe. Ils ont laissé tomber leur trophée. Et finalement, c'est le second qui a remporté le prix. Et c'était une semaine ou 15 jours de studio. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu enregistrer leur premier album.
Excellent. D'accord, ouais. Excellent. C'est vrai qu'il a une bonne qualité, j'ai l'impression qu'il est super bien enregistré pour un premier album. Des fois, tu sais, les gens, ils commencent, ils font des groupes, font des démos un peu plus crado, alors que c'était tout de suite cet album super bien fait, quoi, avec un très beau son.
Ouais.
Des cuivres.
Et alors, ils ont fait très peu de concerts, mais cet album est resté mythique parce que effectivement, ça a été. Il y a eu à la fois le passage dans Les Enfants du Rock en 83 ou 84, je sais plus. Et puis la sortie de cet album, ouais, qui est quand même un événement. Ouais.
Tu les avais vus en concert à l'époque? T'as eu l'occasion de les voir, toi, ou pas?
Non, jamais. Mais ils ont fait, je crois que Gilles Bertin m'avait dit qu'ils avaient fait une trentaine de concerts, ce qui est finalement très très peu quand tu compares, ouais. Je sais pas, avec des groupes moins connus comme WAF, comme Hero Droners, qui ont fait plus de 1500 concerts, qui ont sillonné toute l'Europe à partir du mi-temps des années 80. Et eux, voilà, c'est devenu un groupe mythique, les Caméras Silence.
Oui, voilà, parce qu'il y a eu un petit peu ce moment où il y a eu un cambriolage, en fait, par cash d'une banque, et Gilles Bertin était dans le coup, et après, voilà, il s'est pas fait choper, mais il s'est exilé, en fait, en Espagne, quoi.
Alors, en fait, ils ont monté un coup, ils ont mis un an pour monter le braquage de la Brinks à Toulouse en 88. Ils sont tous tombés. Il y avait quand même une grosse somme, je crois que c'était plusieurs millions de francs. Et quand ils sont tous tombés, forcément, Gilles, lui, a dû partir se cacher en Espagne. Mmh. Il a abandonné son fils qui avait quelques mois, sa femme. Mmh. Et ça a été le début d'un exil forcé qui a duré presque 30 ans. Quoi.
Bah ouais.
Et au bout de 30 ans, il en avait marre de vivre caché. Le sida s'est déclaré en 95 pour lui. Il pouvait difficilement soigner. À l'époque, il était au Portugal. Alors, il raconte bien que, effectivement, l'hôpital à l'époque à Lisbonne l'a soigné avec vraiment beaucoup de bienveillance. Mmh. Et puis, il en a eu marre. 30 ans après, il a fait le parcours inverse à pied. Il est rentré en France et il s'est livré. Il était toujours recherché par Interpol. Et quand il est rentré dans le commissariat, les flics lui ont dit : « Vous ne vous connaissez pas, vous êtes qui ?» Mmh. Là, quand ils ont vu son dossier, ils ont réagi. « Mais vous êtes à quelques années, quelques mois de la prescription, pourquoi vous ne vous
connaissez pas ?»
Et le temps du jugement, il a pris un avocat assez proche de la mouvance indépendantiste basque. Et le temps du procès, le temps de l'instruction, il a écrit un livre qui s'appelle « 30 ans de cavale, ma vie de punk », qui a été édité chez Lafond. Mmh. Et c'est un livre incroyable, incroyable. Mmh. Parce qu'il se met à nu totalement dans ce livre. Il a un talent d'écriture, parce que il le dit lui-même, moi, il est passé de début des années 80 de hurleur en chef dans le groupe Caméra Silence à un type beaucoup plus fin, grand lecteur. Et il n'y a plus grand-chose à voir entre effectivement la personne qu'il était quand il faisait des braquages, qu'il était dans la dope jusqu'au cou, et la personne qu'il était devenu quand il s'est livré, quand il est revenu en France il y a quelques années. Quoi. Mm-hmm. Et encore une fois, c'est un vrai talent gâché. C'est un talent gâché parce que quand le jugement est tombé en France et qu'il a écopé de 5 ans avec sursis, il n'avait toujours pas récupéré ses papiers d'identité. Et le jour où il a récupéré ses papiers, il est tombé dans le coma et il est mort quelques mois après.
Ouais, ouais. Et donc toi, c'était à la lecture de ce livre-là, ça t'a donné envie de réaliser un documentaire sur sa vie. Tu l'avais contacté pour démarrer
ce projet ? Ouais, dès que j'ai eu fini le livre, je l'ai contacté tout de suite. Alors, j'ai eu un type vraiment en or au téléphone. On a échangé pendant quelques semaines, quelques mois. Alors lui, il avait vendu les droits de son bouquin à Canal+, qui devait en faire une série, fiction. Ouais. Mmh. Alors je ne sais pas si l'adaptation sortira un jour. Et il y avait déjà une réalisatrice qui le suivait pour faire un documentaire.
D'accord.
Et puis il avait accepté qu'on se rende compte pour démarrer ce double portrait, à la fois le sien et celui de William, qui aurait raconté en creux la France de ces années-là à travers deux mouvements opposés. Mmh. Et puis il est mort. Et du coup, le film que j'avais en gestation n'est devenu qu'un portrait de William.
De William. Et t'as pas eu le temps de prendre des images avec Gilles au final ?
Eh ben, mon grand regret, c'est qu'il était en signature, je crois, à Saint-Brieuc, donc c'était pas très très loin du Havre, tu vois, j'avais 3 heures de route. Ouais. Et puis j'y suis pas allé. J'y suis pas allé un week-end.
On se dit toujours, on aura le temps à un autre moment. Et cette autre réalisatrice qui avait le projet de faire un film sur lui, qu'il suivait déjà, est-ce que tu sais s'il y a eu des images qui ont été prises et il y a peut-être quelque chose qui se sortira un jour ou pas ?
Alors son film est sorti, il était accompagné par France 2 et il est passé sur France Télé il y a un an ou deux.
Ah d'accord, ok.
Et il s'appelle Gilbertin. Je ne sais plus le titre exact, mais on peut le trouver assez facilement.
Ah ouais, je suis complètement passé à côté, tiens, je vais aller voir ça, super. Eh bien, écoute, merci de nous avoir partagé tout ça, ces petites choses que tu as vécues. On va écouter un titre de Camera Silence, tout de suite, comme on en parlait, et puis après, on va terminer notre interview, d'accord ?
Ça marche.
Bon, à l'instant, c'était un titre de Camera Silence, de leur premier album. Voilà, où on avait toujours Gilbertin au chant sur cet album. Et merci encore hein, pour nous avoir partagé ces petites anecdotes, Jean-Marie. Et puis, comme on disait au début d'émission aussi, cette interview, c'était un peu pour que tu présentes ce documentaire que tu as pu faire sur William Deligny et qu'on va nous rediffuser à Rouen le 30 mars, parce qu'il a déjà, il est passé à la télévision, et puis tu as fait aussi des petits événements de sortie sur Le Havre. Donc ce documentaire, il est sorti, c'est William et les fantômes, et c'est sorti il y a déjà deux ans, je crois.
Oui, c'est ça, il est sorti il y a deux ans, ouais. Et on a eu la chance qu'il ait une étoile de la SCAM qui récompense les meilleurs documentaires diffusés en Europe, en France, en Belgique.
Ouais, hein, je voyais ça, il a eu le palmarès en 2022. Et faut dire que c'est un très beau documentaire aussi. C'est vrai que l'histoire de William, elle est vraiment, c'est vraiment particulière, quoi. C'est son histoire. Et tu l'as mis en scène aussi d'une manière graphique, où tu as fait pas mal de dessins à la main, que tu as fait des petites animations derrière. Hein. C'est toi qui as fait tout ce travail aussi. Ouais.
En fait, il y avait, même si c'était en coproduction avec France 3 Normandie, c'était un budget très limité. On a eu que 5 jours de tournage pour faire le film en tout et pour tout.
Ah ouais.
Et il se posait la question de savoir comment on allait représenter les moments d'extrême violence sans archives possibles. Et moi, la mise à distance que j'avais trouvée, c'était à travers le dessin, puisque c'est quelque chose que j'ai gardé justement de mes études d'archi et mon enfance. C'est de, quand je comprends pas quelque chose, ça passe souvent par le dessin, par l'esquisse, le croquis, aussi maladroit soit-il. Et du coup, avec William, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il y avait certaines séquences qui seraient en animation. Donc moi, j'ai fait quelques croquis, et ensuite je les ai donnés à un talentueux animateur qui s'appelle Tim Dupré, qui est le fils d'un couple de dessinateurs ultra talentueux, Edith et Riff. Et c'est lui qui a signé toutes les animations.
D'accord, ok. Donc toi, ça fait des petits... Ok, d'accord. Et il y a ces petites animations dans le film, et je me souviens, elles apparaissent sur... Donc pour le tournage, vous êtes allé sur différents sites un petit peu abandonnés. Hein. C'était où ? C'était au Havre ? Il y avait des blocos au Havre ? Je ne sais plus trop...
Alors, il se trouve qu'il y avait eu un reportage dans un magazine photo qui s'appelait Photo Magazine en 86, dans lequel William Deligny apparaissait.
Ouais.
Et il avait été pris en photo avec sa bande parisienne de l'époque. Et comme il venait de temps en temps répéter au Havre, les deux journalistes photo-reporters avait fait une série de clichés sur les hauteurs du Havre, sur les falaises, tout près des anciens blocos du mur de l'Atlantique, côté de l'ancienne école de la marine marchande. Mmh. Et quand on a tourné le film, la marine marchande, le bâtiment était abandonné. Et je me suis dit que c'était une manière de lien direct entre ce qu'était William en 86 et de le faire revenir sur ce lieu qui était devenu un vaisseau abandonné.
Graphiquement, c'est joli, quoi, hein, dans le film, ouais. ça donne bien.
Ouais, le lieu est incroyable. Mm-hmm. Et il y avait un autre lieu de tournage qui était aussi un lieu abandonné, qui était un cinéma abandonné dans le centre-ville, et dans lequel, là, justement, on a soumis William à la projection de quelques archives filmées, dans lesquelles on voit... forcément Serge Ayoub qui l'a un peu côtoyé au milieu des années 80 à Paris.
Ouais, voilà, tout ça est raconté dans la biographie qu'il avait écrite, la biographie de William Deligny qui est sortie, c'est quoi ? Skinhead Repenti, hein, ça s'appelait.
Ouais. C'est ça, ouais, Skinhead Repenti, ouais.
Donc toi aussi t'es tombé sur ce livre-là et puis ça t'a donné l'inspiration pour faire ce documentaire, non ? Comment c'était ?
C'était une source sur laquelle on pouvait s'appuyer pour construire effectivement la chronologie du récit. Et puis quand j'ai rencontré William au temple à Saint-Étienne-du-Rouvray la première fois, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est que il y avait eu une adaptation entre énormes guillemets de son histoire à travers un film qui s'appelait Un Français de Diastème, sorti je crois en 2017.
Ouais. Ce film-là, c'est un peu déplacé, quoi. Tu vois, c'est vraiment comment il raconte son histoire en la changeant.
Mais ouais, il a. C'est vraiment du pillage, quoi. Ouais. C'est vraiment du pillage parce qu'il a pris les moments les plus spectaculaires sans jamais citer William.
Rien du tout, rien du tout.
Rien. C'est vraiment.
C'est du plagiat, quoi.
Je veux dire, au niveau de l'honnêteté intellectuelle, ça c'est zéro. Hein. Ça, c'est quelque chose qui. Et je sais que William en avait été vraiment blessé, quoi, parce que je pense que William, il donne assez vite sa confiance à partir du moment où tu le rencontres.
Bah, puis surtout, moi, c'est vrai que moi, tu vois, qui connais William, j'ai vu ce documentaire, puis je me dis, bon, le gars, en fait, il a pris tout l'aspect sensationnel, tu vois, un petit peu pour faire son, ouais. pour faire son film, et puis, tu vois, pour sa notoriété personnelle, etc. Mais il n'a rien parlé, en fait, du parcours vrai de William, intérieur, et de l'ouverture à la spiritualité, et son parcours de repentance, et d'aider les gens, et vraiment comment il aide les gens, tu vois. Ce gars, Diastème, ouais, il aurait pu nous contacter, puis faire parler un petit peu plus de l'assaut Ahimsa Non-Violence, qui maintenant, tu vois, est ici pour aider les gens et vraiment faire des choses bien dans ce monde. Mais non, il a juste préféré faire son petit film, tu vois, s'inspirer de la vie de William sensationnel, et puis. Et c'est tout, quoi.
Et ça, j'avais bien senti à la fois la déception et la frustration chez William. Mais moi, je garde quand même en tête, effectivement, l'idée que. D'un jour de pouvoir raconter dans une série de fiction, cette fois, le parcours intégral de William, c'est-à-dire de sa naissance à Bagnolet jusqu'à la rédemption et la vie aujourd'hui à l'association.
Mm-hmm. Ouais, ça serait bien parce que. Enfin, il y a des choses, c'est. Moi, je suis dans l'assaut, quoi. Je fais ce podcast aussi, je fais toutes les sorties moto l'été et voilà, c'est... Nous, on aimerait bien, tu vois, partager ça avec plus de gens parce que c'est vraiment le... Ça touche vraiment le cœur et puis je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de gens. Et je sais pas, c'est des activités sympas, quoi, tu vois, faire de la moto, on a tous des jolies motos, on fait des sorties, des pique-niques, tout ça, c'est... Bon, voilà.
Mais c'est vrai que quand tu es totalement extérieur et que tu découvres cette histoire pour la première fois à travers le film... Des fois, c'est tellement improbable.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Que c'est. Moi, je me souviens de la projection à Paris à la SCAM. Il y avait une grande partie du public qui en revenait pas. Ouais. Mais non, c'est pas possible, quoi. C'est trop, voilà. C'est.
Non, mais c'est vrai. Je crois que c'est ça. C'est un peu pour ça que des fois, avec Ahimsa, où les gens sont un peu perdus, savent pas trop, parce que c'est tellement un peu choquant et le contraste est tellement fort en fait entre avant et maintenant. Les gens sont paumés, quoi.
Ben ouais, comme le réel dépasse la fiction, tu es en droit de douter, te demander, mais attends, mais c'est pas possible, quoi. C'est...
Ouais. Et toi, c'est comme ça que tu as ressenti ça aussi, toi, un petit peu, quand t'as rencontré William et quand t'as fait ce film, est-ce que toi, ça t'a... personnellement, est-ce qu'il y a des choses qui... Qu'est-ce qui s'est passé en toi, à l'intérieur, à travers de tout ce process de film?
Bah, plus on avance effectivement dans l'âge, plus il y a une évidence qui s'impose, qui est que voilà, la personne qu'on est à 15 ans, et ben, on n'est plus forcément la même quand on en a 50, quand on en a 60. Et ça, j'avais bien conscience de ça, je l'ai bien compris en faisant le portrait de tous ces musiciens à vrai dans Le Havre Cité Rock, là, le documentaire que j'ai fait en 2016. Mmh. Je sais pas quand j'interviewe un type d'une grande finesse, d'une grande intelligence comme Dominique Comon, le chanteur des City Kids, qui lui m'explique que voilà, on était des gros branleurs. Enfin, on était des gros branleurs quand on avait 15 ans, quand on avait 20 ans. Et c'est des gens qui ont évolué, qui se sont enrichis, construits avec des échecs, avec de la souffrance, avec des drames. Mais aussi avec leur talent de musicien. Et effectivement, l'homme n'est pas un bloc immuable. C'est pas parce qu'on a fait énormément de conneries qu'on est embringué dans une idéologie extrémiste de droite, hélas, à 15 ans, que toute sa vie, on sera fidèle à cette connerie, quoi. Mais des fois c'est dur à comprendre et c'est dur d'admettre le cheminement et le parcours, un parcours aussi accidenté et aussi aussi spectaculaire et improbable, quoi.
Bah ouais, mais c'est ça, je pense, tu vois, c'est que les gens, souvent, bah voilà, t'es jeune, tu fais tes expériences, tu fais des conneries, t'es pas forcément une bonne personne, mais tout ça, bah ça te touche en fait, et ça te permet d'en apprendre beaucoup. Tu vois, toutes ces expériences, toutes ces choses de la vie qui te laissent des traces, bah après, ça te permet de grandir et de faire des choses souvent pour le bien, tu vois, il y a beaucoup de personnes comme ça qui changent et qui après font des grandes choses, justement, suite à ça. Mais bah peut-être la majorité des gens n'osent pas faire trop de conneries quand ils sont jeunes, du coup ils ont pas trop de vécu, et après, bon bah voilà, ils font pas non plus, ils en restent à pas faire, voilà, à rester sur quelque chose d'assez plat dans leur vie. Je sais pas, c'est peut-être un peu déplacé moi ce que je dis, mais non, je sais pas.
Bah, on en parlait un peu en off avant que tu lances l'enregistrement, mais il y a le portrait de Sapu. Qui est visible sur YouTube, et c'est c'est un profil totalement différent, mais le parcours finalement est le même, puisqu'il y a forme de résolution à travers la spiritualité et l'ouverture aux autres. Et c'est, c'est vrai qu'on vit dans une société où on veut absolument nous faire croire qu'on est une chose à 20 ans et on sera toujours la même quand on en aura 60, 70.
Non. Ça, c'est un peu l'idée. Les gens, ils font un plan de carrière, tu vois, ils commencent leur vie active et puis ils font le même travail toute leur vie. Et puis voilà, c'est pas ça. Enfin, bon, la vie, ça peut être ça pour certains, tu vois, c'est pas de juger non plus. Mais chacun, tu vois, a besoin de faire ses choses, et je crois que c'est de vivre finalement dans la tolérance. Chacun de l'autre, d'accepter les autres comme ils sont, et puis d'être surtout tolérant. Moi, tu vois, là, dans mon discours, peut-être je manque un petit peu de tolérance et d'ouverture d'esprit, je suis désolé. bon, voilà, c'est ce que, bon, j'essaye d'apprendre, tu vois, à IMSA aussi, c'est un petit peu pour ça, nous, quatre valeurs dans l'assaut, humilité, tolérance, respect, compassion. Moi, je n'ai pas forcément ces choses-là, mais voilà, j'essaie de les intégrer, et puis... En tout cas, moi, tout ça, c'est ce que m'apprend William. William, maintenant, moi, c'est devenu un peu comme mon mentor de vie, tu vois. C'est vraiment un grand frère, un parrain qui m'aide à devenir une meilleure personne, parce que lui, il a eu tout ce parcours vraiment chaotique. Mais bon, il en a appris des choses vraiment très, très fortes et vraiment ancrées dans une expérience que personne d'autre que lui ne partage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez très intéressant, et on peut vraiment grandir, en fait, aux côtés de William. Voilà, si tu as un petit témoignage à faire, et ne prenez pas sur mon exemple, je suis très mauvais. Mais lui, il est vraiment beaucoup plus humble et tolérant que moi, en tout cas, maintenant.
Je crois qu'il y a tous les jours encore des anciens skins qui continuent à l'appeler.
Il y a des gens qui viennent dans l'assaut, qui nous rencontrent. Mais bon, voilà, après, le chemin qu'on propose aussi, tu vois, de devenir une bonne personne, développer des qualités, c'est pas facile, hein. C'est pas forcément tout le monde qui peut faire ça, et puis le tenir sur une durée, hein. C'est un gros challenge, hein. C'est vraiment une bataille intérieure, hein, tu vois, c'est ce que dit souvent William. Au début, c'est facile de cogner sur tout le monde, d'utiliser de tes poings, de ta force, de faire la terreur, mais de retenir ses coups, en fait, et de retenir sa colère, et d'essayer toujours d'être dans l'amour, bah ça, c'est vraiment beaucoup plus dur. Hein. Ça, c'est une vraie bataille intérieure. Ça n'a rien à voir avec se bagarrer dans la rue à défoncer tout le monde, quoi. Et très peu de gens sont... C'est pas facile de faire ça, quoi. Sur la durée, c'est vraiment pas facile, quoi. Bah, en tout cas, je voulais beaucoup te remercier pour cette interview, pour cette discussion qu'on a eue.
Merci à toi.
Et le Havre, c'est pas très loin, entre Caen, tout ça, Rouen, j'espère qu'on arrivera à se rencontrer un jour aussi, quoi. Ça ferait beaucoup plaisir.
Je pourrais pas venir à la projection là, du 30, parce que je suis en tournage en ce moment, mais de toute façon il m'arrive d'aller souvent à Rouen, donc je repasserai vous voir.
Bah ouais, avec plaisir, hein. Et puis pour ceux qui veulent visiter les locaux de IMSA Non Violence, vous êtes invités à venir à Rouen le samedi 30 mars pour la projection du film William et ses fantômes. Ça commence, je crois, à 15 ou 16 heures. C'est en prix libre, voilà. Donc vous donnez ce que vous voulez. Et ça peut être bien de prendre une petite réservation avant. Allez voir le réseau social Facebook, AIMSA Non-Violence, AIMSA NV pour toutes les infos. Voilà. Bon, merci Jean-Marie. C'est quoi tes projets?
Merci
alors,
à
tu
toi.
Dis tournage d'un documentaire, là. C'est quoi le prochain que tu
réalises? Ouais, je tourne un documentaire sur l'histoire de ma ville pendant l'occupation allemande entre 39 et 45.
Ok.
Sur un bon mouvement de résistants.
Tu pensais avoir fini cette année pour le 60e du débarquement, non? Le 80e.
Pour le 80e anniversaire, oui, j'espère qu'en septembre il sera terminé.
Ouais. Ok. Bon, bah on va suivre ça et puis pourquoi pas t'avoir en interview une deuxième fois pour en parler.
Ouais. Merci à toi en tout cas.
Merci beaucoup. Passe une bonne journée.
À bientôt, salut.
Ciao.
Merci. Salut.
Brainwash, à l'instant, sur Radio 666, le magazine AMC Non-Violence, voilà, on a terminé, je crois qu'on va terminer cette émission par ce titre de Brainwash, état d'urgence, voilà, on était avec un groupe de Caen, de la scène punk rock de Caen des années 80, début 80, voilà, donc on aura fait finalement un petit panorama, comme ça, vraiment très très concis, de la scène punk, même rock, normande, on va dire, en gros. Même si Caméra Silence était de Bordeaux, on avait écouté un titre de Bulldozer aussi en début d'émission de Paris. Mais bon, voilà, avec l'occasion de, avec Jean-Marie, tout ce qu'on discutait, c'était l'occasion un petit peu aussi de revenir sur ça. Je pouvais pas. Donc on a eu les Dogs de Rouen, Brainwash de Caen et Little Bob Story de du Havre. Donc ça nous a donné voilà un petit panorama. De ce qu'on pouvait écouter du rock normand. Voilà. Bah, en tout cas, je vous invite encore à venir à booker vos places là pour commencer à réserver pour la diffusion du film William et les fantômes à Rouen. Hein, comme le disait Jean-Marie, je ne lui ai pas posé la question, mais sur le premier documentaire qu'il avait fait, je pense qu'il n'y a pas de sortie DVD, il n'y a pas de rediffusion. Voilà, ça peut être l'occasion pour vous de venir voir ce film qui sera pas diffusé et puis aussi de rencontrer William et de discuter, voilà, il y aura un petit temps de discussion après le film, hein. Donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à William aussi et le rencontrer, acheter de certains de ses livres et même vous les faire dédicacer si le cœur vous en dit. Voilà, bah, je vous souhaite à tous un très bon week-end. N'hésitez pas à aller réécouter aussi les autres podcasts du magazine AIMSA qui sont dispo sur la chaîne Odyssée, qui sont dispo sur Mixcloud aussi. Donc pour aller les voir sur Odyssée, vous recherchez sur la chaîne de vidéo Odyssée AIMSA Podcast et là vous aurez accès à tous les autres, toutes les autres émissions, plus d'une trentaine d'émissions déjà disponibles pour ce podcast qui a commencé il y a 2 ans. Merci à tous pour votre écoute, je vous dis à dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Peace and PMA.
I've got the PMA, Positive Mental Attitude.
Ouais, nous aussi, dans le magazine AMSA Non-Violence, on a la PMA. Alors retrouvez-nous un samedi sur deux, de 15h à 16h. Ouais, en compagnie de Gomata, on s'écoute de la musique positive en discutant des choses qui sont bonnes pour notre cœur et nos âmes. Alors à très bientôt, dans AMSA Non-Violence, le magazine de la vie positive.
Boom, peace, PMA baby.